La virtuosité. S'il y a bien une qualité qui est recherchée en musique, c'est celle-ci. Car quand on écoute un album ou quand on se rend à un concert, on veut toujours être un peu ébloui par une prouesse. Il y a forcément un moment où la technique exceptionnelle des musiciens nous fait décrocher la mâchoire de 20 cm et là, on se retourne vers notre voisin en disant « Putain, il se gave le mec ». Pardonnez-moi pour le gros mot, mais en général, c'est vraiment ce qu'on dit. Sauf que la virtuosité peut être un piège. Combien de fois s'est-on senti lassé par ces morceaux gavés de quintuple croche qui n'en finissent pas et en se demandant quand la guitare du gratteux saturé d'ego prendra feu? Car oui, à mon humble avis, en musique comme dans tous les domaines, la virtuosité n'apporte pas grand-chose si elle ne sert pas l'émotion, la clarté du récit et les moments vides de notes disposés comme des espaces de contemplation. Sinon, autant aller au cirque. Alors des virtuoses, il y en a de toutes sortes. Mais quand les plus délicats savent mettre leur technique haut de gamme au service de l'art plutôt qu'au projecteur braqué sur eux, quand ils savent doser la juste quantité de dextérité et de silence, ils créent des chefs-d'œuvre. Et c'est, j'espère, ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui en compagnie de mon pote Thibaut. Salut Thibaut.
Salut Eric.
Alors Thibaut, on est potes depuis 10 ans à peu près.
Ça commence, ouais.
Ça commence à faire, ça tourne. Ça tourne, ouais, on travaille ensemble. Eh bien, je te laisse nous annoncer le titre de l'album que tu as choisi de nous faire découvrir.
Alors du coup, ça va être Metropolis Part 2, Scenes from a Memory de Dream Theater.
Très bien. Eh bien, ce qu'on va faire, on va, avant de passer un premier extrait, j'aimerais juste qu'on présente très rapidement le groupe. Alors Dream Theater, c'est un groupe de métal progressif, on reviendra sur ce genre particulier. C'est un groupe qui existe depuis 1985. Et cet album, c'est leur cinquième, sorti en 99. Quand tu découvres cet album, tu as quel âge, tu es où, tu fais quoi?
Alors moi, cet album, je pense que je le découvre en 2001. À ce moment-là, je suis en 2001, je pense, et je suis au lycée, je suis en seconde. C'est un pote métalleux qui me le fait découvrir, et c'est un peu le moment où je découvre plein de nouveaux genres grâce à ce mec-là qui, lui, était très pointu dans le métal, là où moi, j'étais plutôt mainstream.
Ouais.
Et il me fait découvrir ce groupe-là, et ça accroche tout de suite, en fait.
Enfin, d'accord. Donc tu découvres cet album et le groupe en même temps?
Je découvre alors...
Ou un ensemble d'albums.
Ouais, ce que j'ai fait, c'était encore à l'époque où la musique, c'était pas forcément disponible très facilement.
Ouais.
Et du coup, quand il me parle de ce groupe-là, il me fait... ça va faire vraiment un peu vieillot, mais il me fait une cassette, en fait. Il me fait une cassette audio avec des enregistrements divers de plein de morceaux du groupe, de différents albums. Et j'accroche au groupe dans l'ensemble.
D'accord.
Et après, je vais plus loin dans l'album, dans cet album-là en particulier.
D'accord, ok.
Mais d'abord, c'est plus sur la globalité du groupe. Je me dis, en fait, ça me parle, quoi.
Parce qu'on verra, c'est pas forcément de la musique qui est facile d'écoute au premier abord, mais toi, ça te capture tout de suite.
Ouais. Alors effectivement, c'est pas forcément reposant comme écoute.
Non.
Surtout qu'ils ont des morceaux qui sont quand même globalement très longs.
Ouais.
Enfin, surtout sur les standards de la musique.
Long et dense, ouais.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que sur une écoute, il faut se dire, là, tiens, je m'écoute un morceau, j'ai un quart d'heure devant moi, ok, c'est bon, je peux y aller.
Ouais.
Mais sinon, sinon, ça marche pas.
Ça marche. On va écouter un premier extrait tout de suite. Alors, pour cet épisode, trouver des extraits, c'est vraiment un casse-tête, parce que les morceaux, on va le voir après, c'est des morceaux qui sont longs, denses, avec beaucoup de changements, donc chaque extrait n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du morceau, ni de l'album. Néanmoins, et on va passer un petit morceau de la deuxième piste qui s'appelle Overture, qui est plutôt neutre, plutôt dans la moyenne de l'album. Alors, on va déjà parler du genre lui-même, le métal progressif. Je vais rapidement présenter le genre pour les gens qui ne le connaîtraient pas. La musique progressive d'abord, la musique progressive tout court, c'est un genre qui, grosso modo, fait suite au rock psychédélique des années 60. Donc par rapport à la pop de l'époque, qui avait des schémas couplet, refrain, et qui se situaient entre les 2 minutes et demie et 3 minutes et demie maximum. Ici, on va avoir des morceaux qui vont se rallonger, avec souvent des musiciens un peu plus virtuoses, hein, comme je le disais en introduction. On a beaucoup plus d'instrumentaux, on a beaucoup plus de changements rythmiques et harmoniques à l'intérieur même des morceaux. Donc ça fait une musique qui est quand même qui sort des schémas un peu de la musique commerciale, on va dire. Et on a aussi quelque chose qui se reproduit d'album en album sur ce genre-là, c'est les thèmes abordés qui se tournent souvent autour de la science-fiction et de l'heroic fantasy. Est-ce que ces deux genres, peut-être plutôt littéraires, sont des choses qui te parlent, Thibaut ? Je crois que dans ce que je te vois lire de temps en temps, c'est le cas.
Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, c'est plutôt mon genre de littérature et mon genre d'univers. Enfin, je suis rôliste à mes heures perdues.
On enregistre chez toi, à la joie. On est entouré
de
figurines, de jeux de rôle, de jeux de société qui tournent sur ces thématiques.
Voilà. Mais par contre, étonnamment, c'est pas ça qui m'a attiré vers le genre en particulier. En fait, c'est pas les thèmes abordés. C'est vraiment d'un point de vue musical que ça a accroché. Et après, les thèmes abordés, c'est un second temps. Mais,
d'accord. Ouais. Surtout, oui, qu'on n'est pas anglophone, donc les textes, on les découvre peut-être après la musique.
Ouais, en tout cas, à l'époque, clairement, je l'étais beaucoup moins que maintenant, ouais, et du coup, c'était la voix mélodieuse ou pas mélodieuse sur certains morceaux marchait bien. Ouais. Comprendre les paroles, c'est venu bien plus tard. Ouais.
Alors, la musique progressive connaît un âge d'or dans les années 70, donc avec des groupes emblématiques comme Pink Floyd, les premiers Genesis, King Crimson, Jethro Tull. Est-ce que c'est ce genre de groupe tu les as écoutés ? Ou tu les écoutes encore ?
Alors, de ces groupes-là, Pink Floyd, j'ai écouté, mais plus tard. D'accord. En fait, c'est venu vraiment plus comme un... j'ai jamais écouté Pink Floyd, je vais quand même y jeter une oreille parce que c'est quand même trop bête de passer à côté.
Ouais, tout à fait.
Quand moi j'ai commencé vraiment sur le progressif, c'était plus en allant découvrir des dérivés métal qui était un peu plus traditionnel. Enfin, moi j'ai grandi, c'était Blink, l'album Americana de The Offspring. Enfin voilà, c'était plus dans ces mouvements-là que je suis rentré dans le métal.
Plus le punk californien.
Plus punk californien. Même des choses type Nirvana ou autre. J'ai commencé sur cette période-là.
Et t'as complexifié.
Et j'ai complexifié. C'est en rencontrant notamment ce pote-là de lycée qui s'appelle Gauthier, qui lui était bien plus ancré dans le métal que moi au moment du lycée. Il m'a fait découvrir plein de groupes à ce moment-là, donc des groupes comme Dream de progressif, des groupes de grind metal ou de death metal type Cannibal Corpse, où là ça arrache beaucoup plus les oreilles. Ouais. Et du coup j'ai découvert plein de mouvances metal à ce moment-là. Et d'accord. Après il y en a que j'ai gardé, il y en a que j'écoute plus du tout. Et,
tout à fait vrai. Alors à partir des années 80, donc les métalleux s'emparent de la musique progressive. Ils en font une musique plus agressive, mais en gardant les mêmes codes esthétiques et structurels. Donc là, je pense que quand on parle de métal progressif, Dream Theater, dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment
ce groupe emblématique, un groupe phare.
Ouais, voilà. Il y a aussi Tool, qui est assez important, qui est vraiment un très bon groupe. Certains albums d'Iron Maiden, qui est plus dans le métal classique, mais voilà. Et puis plus récemment, donc un groupe que moi j'adore, qui s'appelle Porcupine Tree, qui est un groupe qui a commencé sa carrière sur de l'esthétique à la Pink Floyd, justement, et qui a un petit peu rendu sa musique un peu plus agressive d'album en album pour faire les derniers albums qui sont vraiment plus dans la mouvance métal progressif. Pareil, toi, sur les groupes que je viens de citer, ou peut-être d'autres, c'est des choses pour lesquelles tu es familier ?
Alors, Porcupine Tree, dont tu as parlé, c'est ça qu'on en avait déjà parlé un petit peu ensemble. Et moi, j'ai assez peu écouté celui-là, et j'avais jeté une oreille ou deux, mais j'ai pas encore pris le temps d'écouter en profondeur. Moi, après, en métal progressif, il y a Birdfish que j'avais écouté aussi, qui est vraiment, pour le coup, beaucoup dans la mouvance un peu Dream Theater.
D'accord.
Il avait, Birdfish, je les avais vus en concert sur la première partie d'un des side projects de Portnoy, qui est le batteur de Dream Theater. Du coup, voilà, il y a vraiment des similarités sur le style et sur la construction. Et c'est, voilà, enfin, ça reste d'une richesse incroyable.
Ouais, ouais. Bien. Eh ben, je te propose qu'on écoute un petit peu de musique. Maintenant, trêve de blabla. On va parler de l'album lui-même. Alors, avant de parler de l'album lui-même, on va vous faire un petit medley de tout ce qu'on peut rencontrer sur cet album-là. Parce qu'on y rencontre vraiment tout et n'importe quoi, et dans le bon sens du terme. On va y rencontrer des ballades folk. Safe in the light that surrounds me. Free of the fear and the pain. Des envolées lyriques. Du métal pur jus. Du punk hardcore californien. Une ballade version rock voisine. Just beyond the churchyard gates, where the grass is overgrown. I saw the writing on her stone. I felt like I would suffocate. Des riffs bien tranchants. Des solos bien barrés. Des refrains mélodiques pop. No longer torn into, I take my own life before losing you. Des solos à la Pink Floyd. Piano bass string swing. Bon allez, j'arrête là, vous avez compris, on en a pour notre argent. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer la genèse de ce disque ? Parce que ce disque ne vient pas de nulle part, il fait écho à autre chose.
Oui, alors en fait, il fait écho à un morceau de l'album juste précédent de mémoire, où il y avait un morceau qui s'appelait Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper. Ou d'accord. The Sleeper and the Miracle, je ne sais plus d'ailleurs dans quel ordre c'est tourné exactement. Mm-hmm. Et donc là, du coup, cet album, Metropolis Part 2, donc on se dit bêtement, bah tiens, ok, il continue, c'est la suite. Mm-hmm.
Donc c'est un album qui fait écho à un titre.
C'est un album qui fait écho à un titre. Okay. Et l'album, en fait, est construit pour moi comme un immense opéra rock. C'est une histoire qui est racontée à travers l'heure et demie quasiment que dure cet album.
Ouais.
Les morceaux sont faits pour être enchaînés. Il y a pas de silence en fin de morceau ou en début de morceau suivant.
Ouais, la plupart
morceaux,
c'est ça. Tout est enchaîné, ouais. Ouais.
Et du coup, quand il le jouait live, et c'est pareil, la tournée live pour cet album-là, il jouait du coup l'opéra rock dans son entièreté, ouais. De bout en bout.
D'accord. Donc il raconte une histoire.
Ouais.
Ouais. Alors rapidement, est-ce que alors, vous pouvez résumer
rapidement.
Je t'en demande beaucoup. Hein.
Ouais. C'est un peu complexe. Déjà parce que le sujet est un petit peu barré en soi, mais donc c'est l'histoire de Nicolas qui fait des rêves étranges à propos d'une fille qu'il ne connaît pas.
Ouais.
Et il va se faire hypnotiser pour voir si sous hypnose il arrive à en savoir plus. Il trouve que cette fille-là s'est faite assassiner et qu'il se trouve que cette fille-là c'était lui dans une de ses vies antérieures.
D'accord.
Et qu'elle s'est fait assassiner par son amant qu'elle avait conduit. Et ça avait fait les gros titres des journaux à l'époque. Et au final, via l'hypnose, il se rend compte qu'en fait, c'est pas l'amant qui avait tué la jeune femme, mais le frère de l'amant en question, qui avait aussi une histoire d'amour un peu intriquée, séparée entre les personnages. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez dense à ce niveau-là.
Ouais.
Au final, qui a tué les deux et a fait passer son crime comme si c'était son frère qui avait tué la jeune femme en question, et s'était suicidé donc, par la suite.
Il a maquillé le crime, d'accord, ok.
Et voilà, le gros spoiler de fin d'album, c'est que finalement, l'hypnotiseur se retrouve être la réincarnation de la personne qui avait tué effectivement dans le passé la jeune fille, et il retourne tuer Nicolas dans le présent pour...
D'accord. Donc,
on sait pas pourquoi d'ailleurs en fait, mais voilà. Ouais. Mais il le fait.
A-t-on besoin de savoir ?
Non. À ce stade-là, ouais. Non.
Donc on retrouve vraiment cette thématique d'histoire fantastique propre à la musique progressive, enfin à ce mouvement-là.
Oui, alors complètement, ouais. Parce que du coup, bah, voilà, c'est un peu de voyage... on peut dire voyage dans les vies antérieures, un petit peu
ça,
de
ouais.
Notion ouais. Du rêve, de l'hallucination. Et en même temps, autour de ce thème-là principal, il va y avoir plein de petits thèmes qui vont s'y greffer, des thèmes, on va dire, plus généraux dans la musique et plus généraux dans le métal, qui vont être l'addiction au jeu ou à l'alcool,
ouais,
la tristesse,
ouais.
La rédemption. Voilà, il y a plein de thèmes qui sont
abordés. On trouve là plus dans le métal, peut-être.
Voilà, on trouve énormément dans toute son influence du métal. Ouais.
Très bien, bah, merci pour cette présentation. Alors, sur cet album, on a identifié trois types de morceaux. Alors, c'est une façon de voir les choses, hein. il y en a beaucoup d'autres, mais il faut bien choisir. On a déjà une série de titres qu'on va appeler longs et complexes. Alors, c'est des titres qui vont durer plus de 10 minutes, 10-12 minutes. Parfois, ils sont enchaînés avec d'autres, donc ce qui fait qu'on a des...
20 minutes,
comme si on avait un morceau de 20 minutes. Et avec beaucoup de parties différentes, avec des ruptures rythmiques, des ruptures d'harmonie aussi, beaucoup d'instrumentaux. Pour illustrer ça, on va passer quelques extraits de la piste numéro 6 qui s'appelle Beyond This Life. Donc pareil, je passe pas un extrait, mais je vais faire une espèce de medley d'extraits qui va vous montrer un petit peu l'étendue de tout ce qu'on peut rencontrer sur ce titre. Je suis toujours avec mon pote Thibaut, la barbe vive et le tatouage sémillant. Alors on en parlait tout à l'heure avant de commencer, tu disais que Beyond This Life, je crois que c'est un de tes titres préférés de l'album, un de tes titres phares, et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît de manière générale sur ce genre de titre et peut-être en particulier ?
Ce que j'aime bien dans ce titre, c'est un peu ce que j'aime bien aussi dans le progressif, c'est-à-dire que j'ai l'impression de m'en prendre plein la tronche à l'écoute, en fait. C'est que.
On est étonné tout le
on
temps.
On est étonné sans ouais. arrêt, ouais. On est surpris, on attend une continuité sur l'harmonie, on est pris à contre-pied, ça part dans tous les sens. Des thèmes complètement. Enfin, des thèmes. Des rythmiques ou des harmoniques qui arrivent un peu dans tous les sens. Et qui, ouais, enfin, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment une richesse.
Ouais.
Et en même temps, malgré tout, une construction, une ligne directrice derrière qui fait que ça se tient en soi. Enfin, pas non plus de l'éclectisme total où on a l'impression que c'est vraiment rapiécé de bout en bout. Pour moi, il y a quand même une logique derrière,
ouais.
mais c'est surprenant.
Et dans mon introduction, je parlais de virtuosité et de l'utilisation de la virtuosité qui peut être soit vraiment... Alors, c'est complètement subjectif ce que je dis, hein, soit bien utilisé, soit ça peut être catastrophique. Et d'une manière générale, en musique, ou peut-être en art, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, toi, ou pas forcément ?
Bah justement, quand on parlait pour l'intro, ça m'a rappelé en fait. Moi, ce groupe-là, du coup, je l'ai vu en live, pas pour la tournée de Metropolis Partout, mais pour la tournée de Systematic Chaos. Donc, ça devait être en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et en fait, je me rappelle un moment du concert où justement, enfin, c'est que des pistes que j'adore d'un groupe que j'aime beaucoup. Donc, normalement, ça ne peut que bien se passer.
Ouais.
Et là, il y a quand même eu un moment dans le concert où il y a un solo de guitare qui dure 25 minutes, je crois.
Ouais.
Et au bout de 10 minutes, je fais, bon, c'est bon, on a compris, t'es fort, mais, mais faut peut-être passer un peu à autre chose.
Ouais, ouais.
Et voilà, et je m'étais retrouvé un peu perdu, justement, par risque, trop de.
Ouais.
C'était trop, là, ouais, voilà. C'était ouais. Le moment où c'était trop.
Donc, il y a un dosage à trouver.
Voilà, ouais. Après.
Pourtant, ce groupe, je trouve qu'il fait partie des musiciens qui trouvent le bon dosage.
Mais
voilà.
Oui, mais effectivement, dans aucun des morceaux, on va dire, retail d'album ou autres, tels qu'ils sont construits au départ, ouais. J'ai ce sentiment-là. Par
oui,
contre,
oui,
là, c'était
oui,
vraiment
oui.
Sur un solo à part, oui, hors morceau, au milieu d'un concert, où là, je dis, bah là, ok, non.
D'accord, ok. Alors, à côté de ces morceaux, il y a des morceaux qui sont purement instrumentaux. Alors, on va passer un extrait de The Dance of Eternity, la piste 9, et on en parle juste après. Alors, ces morceaux instrumentaux, on peut l'écouter là dans The Dance of Eternity, c'est... là, ils s'en donnent à cœur joie, hein, niveau structure de morceaux, c'est barré dans tous les sens, voilà, il y a des ruptures un petit peu tout le temps, on a l'impression. Je crois que c'est considéré comme un des morceaux les plus difficiles de leur répertoire. Est-ce que tu t'es d'accord avec ça déjà ? Ça, c'est purement personnel comme avis. Mais tu connais mieux le groupe que moi.
Ouais, bah alors moi, c'est vrai que le groupe, je l'ai. Là, si je l'ai un peu lâché ces dernières années, j'étais un peu passé sur d'autres genres musicaux, mais en tout cas, sur jusqu'à, on va dire, ce qu'ils ont fait jusqu'en 2010-2012, clairement, c'est un des plus complexes.
Ouais.
On avait de façon discuté en plus, quand on préparait là, où vous utilisez que pour leur recrutement de batteur, c'était un morceau de test en gros.
Alors juste pour préciser, c'est le batteur Mike Portnoy qu'ils avaient à l'époque a quitté le groupe au début des années 2010.
Ouais.
Et le reste du groupe a voulu continuer, donc ils ont recruté un nouveau batteur et donc il y a eu sur YouTube on peut trouver un documentaire qui explique comment ils ont fait, comment ils ont auditionné 7 des meilleurs batteurs du monde. Et parmi les épreuves, il y avait des reprises des morceaux phares du groupe, dont celui-là, The Dance of Eternity, qui est un des plus difficiles pour voir comment ils arrivaient à se l'approprier. Oui. D'avoir comme ça des morceaux purement instrumentaux sur un concept album, c'est-à-dire sur un album qui raconte une histoire, ça peut paraître étrange parce qu'on se demande qu'est-ce que ça peut apporter à la narration. Est-ce que toi, tu trouves ça un peu déplacé sur un concept album ou pas forcément ?
Alors, déplacé, non, parce que, encore une fois, hein, c'est bien fait. Et là, ça permet aussi de se concentrer vraiment sur la musique sans avoir à garder les paroles en mémoire ou à être porté par les paroles.
Ouais.
Et après, dans cet album-là, ce morceau de Dance of Eternity, dans l'analyse de l'album, ça correspond à un moment où un des personnages essaye de manipuler un autre, pas mentalement, mais donc de le manipuler pour créer des sentiments à son égard. Et en tout cas, de la façon dont c'est construit, ça marche bien sans les paroles aussi.
Ouais, donc ça crée, c'est la musique qui crée un environnement de sentiments, un espèce de paysage sonore qui va servir le propos narratif, en fait.
Ouais,
clairement. Ok. Et puis, on va dire qu'il y a un troisième type de morceau, c'est-à-dire qu'entre ces chansons qui sont vraiment denses, complexes, rapides, agressives, il y a des vrais moments de respiration, et notamment deux ballades. Alors, Through Her Eyes, hein, la piste numéro 7, que j'ai qualifiée tout à l'heure dans le medley de ballade à la rock voisine. Alors, c'est assez étonnant d'avoir quelque chose d'aussi calme, aussi même... Il y a très peu d'éléments. Hein, tous les musiciens jouent des parties vraiment très, très faciles. Il y en a une autre qui s'appelle The Spirit Carries On, qui est la 11e piste, l'avant-dernière. avec une ambiance vraiment à la Pink Floyd avec des chœurs gospel. Je vais en passer un petit extrait et puis on en reparle juste après. Voilà, donc là c'était un extrait de The Spirit Carries On. Là je trouve qu'on est vraiment dans la grande tradition des ballades de métalleux comme Scorpion, les Guns N' Roses. Moi j'ai toujours été fasciné par ces groupes qui arrivaient à pondre des mélodies vraiment incroyables. Et je voulais savoir toi, en tant qu'amateur de métal, comment tu les reçois ces ballades? Est-ce que tu trouves que ça sert vraiment le propos ou est-ce que c'est artificiel ou démago?
Alors, des magots, je pense pas.
Ouais.
Je pense que, comme tu dis, c'est vraiment des moments de respiration. Et ouais. D'ailleurs, en fait, ce qui est assez amusant dans la construction de ces balades, c'est que quand on regarde au niveau du live, quand ils faisaient du coup l'intégralité de l'album enchaîné, parce qu'il y a pas de silence, il y a pas de pause entre les morceaux, donc c'est-à-dire que les musiciens ils partaient pour une heure et demie. Mais en fait, sur ces balades-là, bah de temps en temps. Je sais plus sur laquelle, mais il y a le guitariste, il va faire autre chose parce qu'il a rien à jouer pendant 3 minutes. Le chanteur, alors ça sur ces balades pour le coup elles sont chantées, mais en tout cas pour les morceaux en instro, il part backstage boire un verre pour revenir pour chanter pour la suite. Et je pense que là dans le cadre de ce concept album, ils ont besoin de se créer des moments de respiration parce qu'ils peuvent pas être une heure et demie à fond de toute façon.
Et même pour nous auditeurs, je trouve même que c'est des moments qui sont alors déjà c'est des mélodies incroyables hein. Quand je dis balade à la rock voisine, ça peut paraître un petit peu méprisant de ma part, mais pas du tout, parce que c'était pour souligner que c'était vraiment quelque chose de joliment simple. Voilà.
C'est ça,
si je peux résumer.
Moi, c'est quasiment un petit bonbon, en fait. Ça se mange sans faim, c'est doux.
Il y a même, je réécoutais Through Your Eyes avant de venir, même l'intro, c'est quasiment du Mariah Carey. Il y a une voix féminine qui fait des vocalises. Il y a un son quasiment qu'on peut retrouver dans certains morceaux de Jean-Jacques Goldman. Ça m'a fait penser à des sons comme ça.
Pour ces morceaux, là, justement, encore une fois, j'en reviens au live, mais pour le live, en fait, ils avaient un groupe de gospel sur scène chanter ces parties-là. C'était très. En tout cas, c'est très assumé. Du fait de l'influence gospel et c'est voulu, et en plus d'ailleurs dans le thème en fait ça arrive sur Spirit Carries On, c'est la résurrection, c'est la vie éternelle la réincarnation.
Et c'est vraiment le genre musical qui sert le propos une fois de plus.
Voilà.
Il trouve vraiment le truc qui correspond le mieux, je trouve. Moi je trouve que pour conclure vraiment sur l'album lui-même, on a une construction qui est beaucoup plus proche d'une symphonie de musique classique que comme un album de rock, en fait, dans sa cohérence, dans la construction d'ensemble.
Oui, c'est ça, en fait, c'est que ça pourrait être du métal symphonique si on met quelques cuivres et quelques cordes derrière, ça s'y prêterait très bien. Pour moi, surtout en plus, on va dire que le timbre de voix de James Labrie, donc qui est le chanteur, il a une amplitude vocale qui est quand même assez énorme. Il peut monter très aigu et un peu à l'instar. Pour moi, il y a certaines phrasés de chanter. On peut retrouver ce qu'il y a dans Nightwish qui est chanté par Taria, qui était une ancienne cantatrice d'opéra.
D'accord. Donc il fait partie d'un groupe de métal symphonique, c'est ça?
Nightwish c'était du métal symphonique. Après, ils sont séparés et la chanteuse est partie faire autre chose. Mais oui, ça c'est le principe. C'était un groupe de métal symphonique et une chanteuse lyrique.
Je voulais savoir, Thibaut, par rapport à l'écoute de la musique en général, est-ce que toi, tu préfères l'écouter sous forme d'enregistrement ou de concert, ou les deux? Et surtout, est-ce que ça évolue avec le temps?
Je dirais que ça évolue avec le temps un petit peu. Globalement, j'aime quand même beaucoup le support, écouter l'album tel qu'il a été pensé par les musiciens. C'est écouter l'album en entier, en partant de la piste 1 en allant jusqu'à la dernière piste. ou les éventuels ghost tracks. C'est un concept qui s'est un peu perdu maintenant depuis que le CD est tombé un peu en désuétude. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, le live, j'en fais assez peu au final. C'est quelque chose que j'aime bien, mais à la fois j'ai aussi souvent des petites déceptions sur justement la qualité sonore en fonction des endroits où je vais, quoi.
C'est marrant parce que je pose cette question parce que c'est une réflexion que j'avais en ce moment, et moi avec, donc c'est certainement avec l'âge que je tairai ici par pudeur légitime, de plus en plus je suis exigeant sur la qualité sonore et le confort d'écoute et même le confort physique. C'est vrai que maintenant être debout pendant 3-4 heures, ça commence à me peser un peu. J'ai vu un super concert récemment d'un immense artiste comme ça, Sting, hein, pour pas le nommer, et j'ai vraiment adoré la musique, mais c'est vrai que la musique forte où on est obligé de se protéger un peu les oreilles parce que ça devient trop agressif, et le fait d'être debout, de voir à peine la scène parce qu'on est loin, c'est de plus en plus des choses qui me déplaisent un peu, et je le regrette un peu.
Ouais, c'est vrai que mon dernier concert c'était du coup pour les Red Hot Chili Peppers, et c'est vrai que j'ai fait le concert entier avec Boule Kies dans la fosse au Stade de France, et c'était pas confortable, et le son est pas terrible, ça se réverbère avec les plafonds au-dessus des tribunes, de toute façon le son en stade c'est jamais exceptionnel. Mais là, particulièrement, c'était pas ouf.
Ouais. Alors, on a la chance, on habite à Reims. Là, il y a une salle de concert qui s'appelle La Cartonnerie. Alors, moi, j'aime beaucoup la façon dont ils traitent le son. Et les derniers concerts que j'ai fait dans cette salle étaient vraiment bien, parce que l'acoustique est chouette. Le volume n'est pas trop fort. On n'est pas obligé de se protéger les oreilles. On entend les mixages vraiment bien. Et pour le coup, de temps en temps, on arrive à trouver des bons concerts de rock dans de bonnes conditions. Mais c'est pas si souvent, je trouve. Et je trouve ça dommage. De plus en plus, je préfère la musique enregistrée.
Ouais.
Tu as dit tout à l'heure, tu as vu Dream Theater en concert. Tu les as vus plusieurs fois ou une seule fois ?
Je les ai vus deux fois.
Ouais.
Donc la première fois, du coup, c'était en 2008 ou 2009. C'était la période où j'étais à Toulouse pour les études.
Ouais.
Je les ai vus dans une petite salle et c'était le concert pour un album qui était assez péchu pour le coup, qui est Systematic Chaos. C'était l'album de 2008 de mémoire.
Oui, parce que c'est un groupe qui a donc ils font du métal progressif, mais suivant les albums, ils sont plus du côté du métal ou plus du côté du prog, et souvent quand on les voit en concert on n'a pas forcément le même groupe, quoi.
C'est ça, c'est pas forcément la même expérience. Et du coup voilà, je les avais vus là sur la première fois sur cet album là qui était très péchu, et je les ai vus une deuxième fois en festival. C'était au festival à Amnéville qui était le Sony Sphere, où c'était sur une série où il y avait le Big Four qui était là, donc il y avait le plus grand groupe de Metallica, Slayer, Megadeth. C'était une journée de fou furieux, et du coup pour le coup là c'était un album qui était plus progressif, et du coup ça tombait un peu à plat dans l'ambiance de la soirée.
D'accord. C'est-à-dire
que tu regardes Slayer, tu vas en face, tu regardes un autre truc très vénère, tu reviens pour La Dream qui faisait un album plutôt gentil, et puis le lendemain tu viens pour Metallica, c'était pas là.
C'est un peu hors sujet, quoi.
C'était pas trop le thème.
D'accord. Je crois que t'as arrêté un peu de suivre l'actualité du groupe quand on en discutait en off. Le départ du fondateur, là, Mark Portnoy, t'as mis un petit coup d'arrêt sur la volonté de suivre le groupe il y a une dizaine d'années, non ?
Ouais, alors c'est un petit peu compliqué, c'est parce qu'au moment où ils sont séparés, ils sont pas séparés en très bons termes. Et assez bêtement, en fait, il y avait un peu le clan des gens qui trouvaient que Portnoy, en voulant s'arrêter pendant longtemps, abusait et l'ont rejeté. Et les gens qui trouvaient que Portnoy, c'était une des clés de voûte du groupe. Et que le fait que le groupe veuille s'en passer, c'était pas très respectueux. Surtout que c'était un moment où, de mémoire, il venait de perdre son père. Enfin, c'était un moment qui devait être facile pour personne à ce moment-là. Et moi, j'ai plus suivi, en fait, les projets que Portnoy a fait de son côté depuis. Faut savoir que, du coup, il fait partie du Neil Morse Band, qui est donc un gros groupe progressif aussi. Il a fait partie de The Winery Dogs, qui était plus du rock, tendance rock-metal, mais voilà, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, j'allais dire basique, mais non. Mais en fait, par rapport à la richesse du progressif, c'est quelque chose de beaucoup plus simple en termes mélodiques, et en termes de construction de chansons. Il a fait partie de Flying Colors, qui était là, c'est plus du rock progressif que du metal progressif, mais c'était pareil, c'était aussi avec Neil Morse d'ailleurs. Enfin, voilà, il a fait plein de projets à droite à gauche, et j'ai plus suivi ces projets-là.
Alors avant de finir, j'aimerais vous passer quelques extraits de la piste numéro 8 qui s'appelle Home, qui est de loin mon titre préféré de l'album. Alors pour préparer cet épisode, je l'ai écouté plus de 1000 fois, je pense. C'est à peine exagéré, à peine.
Ça fait quelques semaines d'écoute.
Ça fait quelques semaines d'écoute, voilà, je ne dors plus. Voilà, donc je vais vous passer quelques extraits, vous allez voir par quoi ça passe. Il y a l'ambiance générale du morceau, hein, qui est très long, qui fait 12 minutes, que je trouve génial. Le mode, les gammes orientales de l'introduction, la mélodie très pop du refrain, la structure qui est chouette, les solos complètement barrés. Allez, j'envoie le medley, bam. Avec cet extrait de Home de Dream Theater sur l'album Metropolis Part 2, on va terminer cet épisode. Un grand merci à toi Thibaut, parce que j'ai écouté cet album Metropolis en long, en large et en travers, et j'ai redécouvert le groupe que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça, et j'ai passé vraiment des super minutes d'écoute grâce à toi. Ah non, pardon, des heures d'écoute, voire des semaines.
Des semaines.
Voilà. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cet épisode, ainsi que les autres du podcast Des Potes et des Albums. J'espère qu'on a su vous sortir de votre zone de confort avec délicatesse en vous faisant découvrir une musique riche et étonnante. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau pote et son album fétiche. Ciao !